ce matin, pas la nôtre, le mouvement MeToo qui s'exprimait sur le fait que certains journalistes de la télévision aient pu se livrer à des agressions sur des femmes, etc. On suit cette actualité-là. Mais il y a d'autres choses également. Il y a l'actualité aux États-Unis, la question de l'avortement qui est extrêmement clivante. Et on sait que la Cour suprême a connu un revirement tout à fait historique sur ce sujet qui relance aussi la question de la sexualité, de la vie. Et puis, il y a aussi des productions éditoriales. L'une dont je voudrais parler ce matin, et c'est le professeur René Cochard qui va nous en parler, à travers un ouvrage tout à fait monumental qui n'a peut-être pas eu l'écho qu'il mériterait. C'est une encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, qui a reçu le prix Jean-Paul II tout récemment sous la direction de José Noriega, René et Isabelle Cochard. Et donc, René Cochard est avec nous ce matin. C'est une somme mondiale sur la sexualité qui est enfin traduite en France. 157 auteurs pour ce dictionnaire tout à fait considérable. Et puis on va parler aussi, c'est l'occasion puisque le professeur Cochard est avec nous, de son dernier essai « Homme-femme, ce que nous disent les neurosciences, la nature a raison, nous dit-il, nos différences sont des richesses ». C'est un essai publié aux éditions Artege. Le professeur René Cochard est docteur en médecine, professeur à l'université Claude Bernard à Lyon et membre du pôle santé publique du CHU de Lyon. Il se dit promoteur d'une écologie humaine intégrale. Bonjour professeur.
Bonjour lui.
Qu'est-ce que ça veut dire écologie humaine intégrale?
Écologie humaine intégrale, c'est-à-dire que c'est une réflexion pour chercher toujours ce qui est bon pour l'environnement et bon pour l'homme. C'est-à-dire ne pas opposer l'homme à l'environnement, mais au contraire, on apprend beaucoup de l'écologie environnementale pour l'écologie humaine. Il y a un grand nombre de règles qui ont été découvertes au cours de ces 20 dernières années sur l'écologie environnementale. Et quand on applique cela à l'espèce humaine, à nous les humains, eh bien, on gagne du temps.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, que nous sommes vulnérables. La nature est vulnérable et nous sommes vulnérables. Et cette vulnérabilité fait qu'on est responsable les uns des autres, de la même manière qu'on est responsable de notre environnement. Eh bien, nous sommes responsables les uns des autres. Et il y a des règles à suivre. C'est de la même manière que si on jette nos sacs plastiques, l'océan sera bientôt détruit. Eh bien, de la même manière, il y a des règles à suivre et à chercher ensemble, et non pas à recevoir comme imposé de l'extérieur, pour une meilleure vie humaine.
Vous estimez qu'on dissocie les deux à tort, oui, environnement et sexualité en espèce.
On se prive en fait des leçons acquises sur la nature. Il est bon de reprendre le temps de considérer les grandes règles de l'écologie environnementale de manière à gagner du temps pour l'écologie humaine.
Ce discours, nul ne le tient. Écologie humaine, c'est une expression estampillée catosphère.
Catosphère, oui. Quoique sur Wikipédia, vous verrez, écologie humaine, c'est plutôt le darwinisme, etc. Ce qui n'est pas très très bienveillant. Or, quand même, au cœur de l'écologie, il y a la bienveillance. La bienveillance, la vulnérabilité, l'accueil de la vulnérabilité et la réponse à cette vulnérabilité. Qui dit vivant, dit vulnérable. Donc, qui dit nécessité de prendre soin, de respect, de délicatesse.
Il y a l'idée, professeur, aussi dans l'écologie, enfin l'écologie bien comprise si je vous suis, c'est que si on transgresse un ordre, en l'espèce il y a une sanction. C'est-à-dire que la nature, comme on le sait, ne pardonne jamais.
Oui, comme vous dites, mais disons que les sanctions ne sont pas imposées par un grand méchant loup, elles sont tout simplement les faits. Si je jette mes détritus dans la rue est désagréable. Si je maltraite un collègue de travail, eh bien ça y est, c'est la soupe à la grimace. C'est des règles toutes simples.
Quelle est votre intention quand vous écrivez sur le masculin, le féminin, pour améliorer, dites-vous, le dialogue entre les hommes et les femmes?
Disons qu'il serait bon de ne pas entrer dans une guerre des sexes. C'est-à-dire que il me semble que nous sommes à un seuil très important. Nous avons quitté le temps de la femme au fourneau, l'homme au boulot. Et c'est heureux, et c'est actuel. Mais maintenant, aujourd'hui, à quoi servent les hommes? Qu'est-ce que peut apporter comme richesse une femme? On dit, il faut au boulot tant de femmes que d'hommes, etc. Super. Bon, mais qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, ces personnes? particulières grâce à ce qu'elles sont. Moi, j'ai eu la chance de diriger un service de recherche pendant 17 ans. Eh bien, j'étais heureux, il y avait des hommes et des femmes. Et les responsabilités, nous les partagions. Mais ce n'est pas juste pour respecter le droit ou respecter ce qui se fait en ce moment. Non, c'est parce que les hommes et les femmes apportent des choses spécifiques que les autres n'apportent pas.
Ce que l'on ne définit jamais.
Pour l'instant, non, mais en science, par contre, si. C'est-à-dire, ça fait depuis 2005, on est obligé, quand on écrit un article scientifique maintenant, dans les grandes revues, de dire ce qu'il en est des hommes, ce qu'il en est des femmes. Si bien qu'on n'a pas de mal à trouver la littérature. J'ai décrit 500 articles dans ce livre, mais je peux vous en trouver 800 si vous préférez. Parce qu'en fait, si vous voulez, les scientifiques maintenant doivent dire ce qu'il en est de l'homme, doivent dire ce qu'il en est de la femme, car il n'en est pas la même chose. C'est-à-dire, nous n'avons pas le même corps, mais nous n'avons pas non plus le même cerveau. C'est-à-dire que nous avons nos richesses que d'autres n'ont pas.
Vous voulez dire, professeur Ecochard, que la littérature scientifique est en fait différentialiste?
Ah vraiment, oui, parce que de fait, si vous voulez, on constate, c'est pas une question... nous avons une commune humanité, hommes et femmes. Donc nous avons la majorité en commun. Mais chacun d'entre nous a des dons. Et regardez, par exemple, la femme est empathique pour le proche. Elle aura le souci de la qualité de vie là où elle est, au travail, à la maison. Voilà. Bon. L'homme a l'empathie pour le lointain. C'est-à-dire que ce sera plutôt lui qui va sursauter quand on apprend qu'il y a un tsunami, il faut envoyer de l'argent. Il va dire « Ah, mais il faut absolument leur envoyer quelque chose ». Sa femme répondra « D'accord, mais est-ce qu'on pourrait déjà payer des cours de maths aux petits qui peinent un peu ?» Vous voyez, c'est cette complémentarité. Ce n'est pas mécanique. Nous ne sommes pas tous à 100% empathiques pour le lointain ou bien pour une femme à 100% empathique pour le proche. Mais en moyenne, si vous voulez, nos richesses sont complémentaires. Et dans une équipe de travail, c'est très important.
Au-delà de l'empathie, qu'est-ce qu'il y a comme point distinctif?
Il y en a beaucoup. Par exemple, l'aptitude à repérer les détails. Raconter une histoire à des petits-enfants, des petits gars, des petites filles. Vous verrez, les filles en général captent des détails que les garçons ne captent pas. Et le garçon va capter des éléments de la globalité que la petite fille n'aura pas eu le temps de capter. Elle captait les détails. On ne peut pas être à la fois un être du détail et un être de la globalité. Et ça, souvent, ce sont les petits gars qui sont orientés sur la globalité.
L'intuition, c'est proprement féminin ?
Je pense que nous avons de l'intuition hommes et femmes, mais si on dit toujours que les femmes ont de l'intuition, c'est parce qu'on le constate. Ce qui ne signifie pas que nous, les hommes, nous n'avons pas aussi nos intuitions, mais ce sera peut-être plus sur l'organisationnel, sur le mécanique. Vous voyez, le goût pour le mécanique, c'est pas juste dans la littérature ou dans la politique, c'est biologique. C'est-à-dire que si moi, homme, j'ai eu plus de testostérone quand j'étais dans le ventre de ma maman, eh bien, j'aurais plus de goût pour la mécanique. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, nous sommes les chromosomes donnent à chacun ce dont il a besoin, et notamment en complémentarité de l'autre. C'est-à-dire que la testostérone, qui est donnée donc plus fortement chez les hommes, semble avoir un but, nous éloigner un tout petit peu, par exemple, de l'aspect émotionnel des choses. L'aspect émotionnel reste à vif, bien souvent, chez la femme, parce qu'elle a peu de testostérone. Nous, on va être un peu éloigné de l'émotionnel. Donc, du coup, on sera plus enclin à s'intéresser au rationnel. Voyez, on est tout à la fois émotionnel et rationnel, soit homme ou femme, mais on a quand même là où on excelle.
Oui. Professeur Ecochard, ce que vous dites, est-ce que vous estimez, enfin, vous l'estimez, puisque vous l'écrivez, c'est validé par les neurosciences, c'est-à-dire vous êtes capable de dire « ça, la science le dit, je peux l'attester ». Alors que vos opposants vont répéter que c'est un stéréotype culturel forgé par des sociétés patriarcales.
Ce que vous dites me paraît juste, c'est-à-dire que quand on dit culturel, social, on parle de sociologie, on constate qu'il y a des manques dans l'attitude de l'homme vis-à-vis de la femme ou de la femme vis-à-vis de l'homme. Et c'est plus en ce moment ce qui est axé, on comprend plus la dimension masculine qui a été souvent maladroite. Bon, ça, c'est sociologique. Mais ça ne parle pas de ce que nous sommes biologiquement, donc de nos forces. Nous avons des forces en nous qu'on peut développer au service de la famille ou de la société. Et ça, c'est des faits. C'est-à-dire, comme vous dites, c'est l'effet scientifique. J'ai cité 500 articles dans mon livre. On n'en manque pas. C'est que c'est des faits, vous comprenez, comme acide plus base donne sel plus haut. C'est des faits, vous voyez.
Mais comment faites-vous le lien, par exemple, entre testostérone et goût pour la mécanique? On va vous dire non. S'il y a un goût pour la mécanique, c'est parce qu'on a conditionné les enfants de telle manière. Si les femmes jouent à la poupée, c'est parce qu'on leur offre des poupées,
tout
etc.
Tout à fait. C'est l'éducationnel va nous permettre de développer nos capacités. Donc évidemment, l'éducation va continuer ce qui s'est fait, forger les bases qui ont été données dans le ventre de notre mère. Dans le ventre de notre maman, nous sont données des bases, mais après, l'éducation va le développer. Donc en effet, si le petit gars se voit offrir en permanence des camions, il va être vraiment très orienté sur les camions. Mais ce goût pour le camion était déjà là. Et vous savez, il y a deux signes importants. Enfin, c'est que c'est vrai aussi chez le petit animal. Vous donnez des objets ronds ou carrés dans un cadre où vit des petits chats, par exemple, des chats, eh bien vous verrez que les mamans chats préfèrent les choses rondes parce que elles sont orientées vers le petit. Les petits sont ronds, la tête, la schtroumpf, les têtes sont ronds, et donc les mamans ont un goût pour le rond, et cela est biologique, que ce soit l'animal ou l'humain. Vous voyez, c'est en fait, si vous voulez, dans notre ventre, dans le ventre de notre maman, nous avons reçu des forces que nous allons utiliser après. Et vous disiez, mais comment on le sait? Bien, on le sait tout simplement, notamment Baron Cohen, toute son équipe en Angleterre, a montré que en fonction de la quantité, je vous parlais de la testostérone, la quantité de testostérone qu'il y avait dans le liquide dans lequel nous vivions dans le ventre de notre maman, eh bien plus il y en a, plus on s'intéressera à la globalité et non pas aux détails, et moins il y en a, plus on aura l'aptitude à lire dans le cœur, dans les yeux, ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Vous savez que les femmes ont ce don extraordinaire, bien souvent, de comprendre ce qui se passe dans le cœur de l'autre sans même qu'on lui dise.
Il y a donc, professeur Ecochard, des expériences qui ont vérifié cela scientifiquement.
Vraiment, vraiment.
Dont on ne parle pas, honnêtement.
Ben, ce n'était pas encore la mode, parce qu'il faut bien comprendre que ces choses-là datent des 20 dernières années, 20, 25 dernières années. Et notamment avec cette accélération du fait qu'il y a les 5 grandes revues, notamment, ont commencé, les plus grandes revues, de décider, nous ne voulons plus de travaux, on ne distingue pas ce qu'il en est de l'homme et de la femme.
Mais pourtant, tout le discours ambiant porté par la vision LGBT, pour faire court, a tendance à distinguer, au contraire, à reconnaître que ces distinctions, ou à dire que ces distinctions sont fallacieuses, et à faire prévaloir l'idée que le monde est non-genré. Donc vous choisissez, en fait, votre appartenance.
Oui, mais
ça... Et même, vous pouvez choisir le fait de ne pas en avoir.
On comprend que des gens sont passionnés, des gens d'associations sont passionnés, et du coup passent beaucoup de temps dans la sphère médiatique. Il est difficile de passer des articles qui ne marcheraient pas là-dedans. Il y a une sorte de grand mouvement qui nous impose ça. Mais les faits sont les faits. C'est-à-dire que, à la fois, ce qui est vrai dans l'appel de ces associations, c'est l'appel au respect. Et ce qui est vrai dans la science, ce sont les faits. Nous avons des forces. Oui, je reviens à l'écologie. Nous avons des forces. Développons-les. Il y a des vulnérabilités. Protégeons-les. Et donc, il est bon de progressivement retrouver l'équilibre entre science et politique.
Mais ce que vous nous dites, c'est que l'intérêt, donc aussi les crédits, la recherche, le temps passé dans le cadre de la science, va dans une direction qui est celle de la différence homme-femme.
Il y a tellement de faits. Oui, il y a tellement de faits, vous comprenez, que ils paraissent chaque mois.
Mais comme si on avait la nécessité de le prouver ou le démontrer.
Ah oui, parce que c'était pas évident. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a 3 ans environ, c'est parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, René, toi, t'es scientifique, dis-nous, est-ce que le cerveau de l'homme, le cerveau de la femme sont différents? Donc je me suis mis au travail sans savoir la réponse. Et c'est extraordinaire de voir progressivement tous les faits. C'est comme des news qui tombent à la télé successivement. Ben, vous commencez à dire, attendez, mais il y a quelque chose. Oui, nous avons des richesses. Regardez l'homme en particulier. Le chromosome Y, qui est le nôtre en spécificité, hein, il s'est développé pendant 165 millions d'années pour arriver là où il en est. C'est quand même pas rien. Donc, toute l'évolution, si vous voulez, toute la pression de l'évolution a abouti à nous donner des caractéristiques qui sont favorables favorable à la masculinité pour le groupe. On n'est pas homme seulement pour soi, on est homme pour la famille, pour la société. Et donc ceci s'est échafaudé progressivement, mettant toujours à côté du masculin des gènes qui sont favorables à la masculinité. Ben, ça gagne à être connu pour progresser dans la vie conjugale.
Comment considérez-vous l'attrait pour une personne de même sexe ?
Alors,
au regard de ces preuves que vous sollicitez,
oui,
que vous mobilisez.
Oui, c'est ça. C'est que si vous voulez, globalement, ce que je vous dis, c'est très important pour l'identité sexuelle. Suis-je homme ou suis-je femme ? Et quand je grandis, est-ce que je grandis aussi dans ma masculinité ? Ou je grandis ? Et à quel moment ça se passe ? Et donc, la science n'a aucun doute sur le fait qu'il faut bien attendre environ 25 ans pour avoir fini sa maturation sexuelle. Donc, toutes les difficultés qui surviennent avant, c'est les mêmes difficultés que quand on a des difficultés en maths ou en français quand on est petit. C'est des crises de croissance. Mais si on accompagne la personne au moins jusqu'à 25 ans, on dit 25 ans en neurosciences, hein, certains disent, on voit encore des évolutions jusqu'à 27 ans. Et donc, si on accompagne les difficultés du jeune avec délicatesse, comme on l'accompagne dans d'autres dimensions de sa croissance, on verra un grand nombre de personnes s'apaiser et finalement comprendre qu'il est pour eux bien bienfaisant de croître dans ce qu'ils sont, plutôt que de rêver être quelqu'un d'autre.
Mais ça veut dire que jusqu'à 25 ans, vous pouvez orienter différemment sexuellement si vous pratiquez une éducation différente.
C'est-à-dire
ou
si
un enseignement
voulez...
différent.
Oui, ben, la même manière que si vous avez un petit qui a du mal en mathématiques, ben, vous lui offrez des jeux qui vont l'aider à progresser dans cette insuffisance, voyez. Nous avons eu, nous, une fille qui peinait en mathématiques. Et son enseignant nous a dit, offrez-lui des petites baguettes de bois, on appelle les baguettes Kuzner, vous verrez, ça va l'aider. Et elle a passé le cap. Et c'est une adulte qui est tout à fait apte. Elle a établi ses stratégies pour contourner ses difficultés. Eh bien, il en est de même en matière sexuelle. Un enfant qui regardez, par exemple, le coup classique de la fille garçon manqué. J'ai pu parler avec des filles qui avaient beaucoup souffert de ça, notamment avec une grand-mère qui me disait combien elle a souffert toute son adolescence de se sentir plutôt un garçon. Elle me disait, mon Dieu, heureusement que je ne vivais pas maintenant. On m'aurait écartelé, alors que maintenant, ben, comme on m'a accompagné et contraint un peu les deux, hein, ben je suis une grand-mère heureuse avec des petits-enfants et des enfants. Vous voyez, c'est qu'en fait, oui, nous avons des difficultés de croissance, oui, nous avons des difficultés. Alors accompagnons les jeunes et ne pas leur laisser croire qu'ils sont abandonnés comme pseudo-adultes dès 18 ans. Et il faut les laisser grandir jusqu'à la fin de la maturation neurologique qui se passe environ à 22 ans chez les filles, 24 ans chez les garçons.
Professeur Ecochard, il nous reste quelques minutes, 2 minutes. Je voulais dire un mot de l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, cet ouvrage monumental, 157 auteurs, honnêtement pas très médiatisé, alors qu'il a, bon, il a reçu le prix Jean-Paul II, certes, mais c'est surtout par la mobilisation intellectuelle qu'il contient.
Oui, c'est extraordinaire. Si vous voulez, 157 personnes du monde entier, des États-Unis, d'Asie, d'Afrique, il y a 7 auteurs africains, et d'Europe, bien évidemment, ont accepté d'apporter les uns de la théologie, les autres de la philosophie, les autres de la vie associative, parce qu'il y a de la vie associative aussi dans les continents, tous convergeant vers le fait que la sexualité humaine est quelque chose de beau, de grand, et qui est lié à l'amour, et qui donne la vie. Et donc, c'est, dans le fond, c'est comme si nous étions à 157 à nous être mis en grand congrès et avions rassemblé nos travaux dans ces livres.
Combien d'années de travail ?
Pas mal, parce que il a été publié en italien en 2019, on avait commencé en 2017, vous voyez, et puis la traduction française a été réalisée par 10 professionnels et relue par des gens de terrain. On a voulu que le texte soit amélioré pour être lisible par tous. C'est difficile, bien sûr, quand lisible par tous. Mais il y a des articles de haut niveau et des articles très simples. Et donc, ça a été un travail collectif passionnant.
Donc destiné aussi à rendre peut-être le discours de l'Église catholique plus audible.
Ah vraiment, oui, audible en le détaillant, si vous voulez. Vous parliez de l'homosexualité à l'instant, l'homogénitalité, l'homoparentalité. Pourquoi la politique s'en mêle? Pourquoi, voyez, chaque chose.
Merci beaucoup, professeur René Cochard. Je rappelle également, homme-femme, ce que nous disent les neurosciences pour aller plus loin par rapport à ce que vous avez mentionné dans cette émission autour de la différence homme-femme, c'est aux éditions Artege. Je vous remercie d'être venu nous voir ici même à Paris puisque vous êtes à Lyon et je vous souhaite d'excellentes vacances.
Merci, Louis.
On voulait passer à autre chose, changer de décor.
Oui, c'est ces meubles anciens.
Fidélité sur la région de Mayenne, 107.5.
Il est à l'agonie, docteur Watson.
Il ne voulait pas que j'aille chercher un médecin, mais... Avec ou sans votre permission, monsieur Holmes, lui ai-je dit, je vais immédiatement appeler un médecin. Il m'a répondu, dans ce cas, que ce soit Watson.
Pour suivre les pas de Sherlock Holmes et du docteur Watson, rendez-vous du lundi au vendredi à 8h15 et 16h45.
Canicule, non, la France n'en a pas terminé avec la vague de chaleur. Un nouveau pic est attendu vendredi. Aujourd'hui, les températures vont d'ailleurs encore progresser dans le sud-ouest et la basse vallée du Rhône, autour de 35 à 38 degrés en moyenne. Et progressivement, cette hausse du mercure se propagera vers le nord jusqu'à la Loire mardi, puis la Bourgogne, l'Île-de-France et le centre-est jeudi. Et d'ailleurs, cette quatrième vague de chaleur s'annonce pire que la précédente, favorisée par un puissant anticyclone localisé au-dessus des îles britanniques. De nombreuses villes devraient connaître des températures dépassant les 35 degrés, et ce durant plusieurs jours. À peine la troisième vague terminée, la France entre dès aujourd'hui donc dans sa quatrième vague de chaleur avec des températures qui vont dépasser les 35 degrés. Les seuils nécessaires au déclenchement de l'alerte canicule vont être atteints dans divers départements de l'Hexagone. Le Gard et le Vaucluse se trouvent d'ailleurs déjà en vigilance orange. Et preuve de sa sévérité, ce nouvel épisode va se caractériser par sa durée. Alors que lors de la dernière vague, les fortes chaleurs s'étaient surtout concentrées sur la journée du mercredi 3 août. Cette fois, les températures caniculaires vont s'installer et persister. Une conséquence inévitable et directe. Les incendies en Bretagne, plus de 300 hectares brûlés dans le Finistère et dans le Morbihan, dans le secteur de Brapar. Le feu est fixé mais pas maîtrisé, a indiqué la préfecture du Finistère dans un communiqué avec 225 hectares qui ont déjà brûlé. Dans le Morbihan, le feu de Meucon est désormais fixé et les derniers incendies de Locoal, Mandon et Ardeven dans le Morbihan ont été maîtrisés. On passe à l'actualité à l'international et aux États-Unis tout d'abord avec cette victoire pour Joe Biden. Le Sénat américain a adopté son vaste plan sur le climat et la santé. Ce plan de plus de 430 milliards de dollars retournera la semaine prochaine à la Chambre des représentants pour un vote final avant d'être promulgué par le président américain. À Gaza, des tensions qui persistent malgré la trêve passée entre Israël et le djihad islamique. Quelques minutes après l'entrée en vigueur de la trêve entre l'État hébreu et le djihad islamique, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des raids à Gaza en réponse à des roquettes tirées avant de se rétracter. Après 3 jours de violents échanges de tirs dans l'enclave de Gaza, les deux parties avaient trouvé un accord hier soir sous l'égide de l'Égypte pour cesser les raids. La centrale de Zaporijjia et les autorités d'occupation qui accusent Kiev d'un nouveau tir. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée ukrainienne a mené une frappe avec une bombe à sous-munition tirée d'un lance-roquettes multi-ouragan, ont indiqué les autorités d'occupation de la ville d'Energodar, où se trouve la centrale dans le sud de l'Ukraine. L'administration d'occupation russe a affirmé hier que l'armée ukrainienne avait endommagé des bâtiments administratifs lors d'une frappe sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, cible de tir dont s'accusent mutuellement Moscou et Kiev. Et puis sport et football, Paris, Marseille et Lille sont les premiers leaders du championnat de France de Ligue 1. Victoire du PSG face à Clermont 5-0, de Marseille face à Reims 4-1 et de Lille sur Auxerre 4-1 également.
Fidélité sur la région de Mayenne 107.5.
L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Les compagnons du devoir du Mans et de Laval ont un nouveau prévôt, c'est-à-dire un nouveau directeur. Bonjour Thibaut Capelli.
Bonjour.
Vous avez 25 ans et vous voilà en Sarthe pour quelques années. Expliquez-nous un petit peu votre parcours.
Alors je dirais que j'ai suivi le parcours classique. J'ai fait une filière générale. Donc je suis allé jusqu'au bac scientifique. J'ai choisi, après l'obtention de mon bac, de faire un métier concret, de voir un peu l'aboutissement de mon travail plus rapidement. Et donc j'ai décidé de partir sur le Tour de France chez les Compagnons du Devoir en 2014, à mes 18 ans.
Alors les Compagnons du Devoir en France, ils offrent beaucoup, beaucoup de formations. Vous avez choisi quelle filière, vous, Thibaut ?
Alors j'ai choisi le métier de chaudronnier. Je suis compagnon chaudronnier parce que c'est un métier, à mon sens, c'est un métier d'avenir avec beaucoup de demandes, notamment... Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Le chaudronnier va former le métal, va partir d'une tôle plate pour ensuite la former, donc avec différents procédés, hein, le roulage, le pliage et l'assemblée avec d'autres procédés, le soudage, le rivetage. Donc il est notamment amené à faire la réalisation de bateaux, on le retrouve aussi dans le secteur de l'aéronautique, de pharmaceutique.
Alors, une fois que vous êtes entré au Compagnon du Devoir, il y a quand même plusieurs années de formation. Ça se passe avec un Tour de France, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'est passé comment pour vous, ces 4-5 années d'apprentissage, en fait ?
Ah oui, c'est exact. Il y a le Tour de France. Alors ça, on choisit de faire le Tour de France. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jeunes ne sont pas forcément obligés de faire le Tour de France. Ils peuvent juste faire leur formation chez les Compagnons du Devoir, parce qu'on a une formation de qualité, avec des diplômes reconnus par l'État. Nous sommes certifiés Calliope. En l'occurrence, personnellement, j'ai choisi de faire le Tour de France car on a plus de temps de travail, on est mieux suivi. Voilà, j'ai commencé avec un Tour de France en 2014 à Alès, dans le Gard. Ensuite, j'ai changé de ville, je suis allé à Tours, Dunkerque. Ensuite, on est fortement conseillé de faire une étape à l'étranger, donc j'ai choisi d'aller à Montréal. Avec les compagnons, on voyage. Ensuite, je suis revenu en France, j'ai été à Strasbourg, Toulouse, Angers, et maintenant je suis prévôt au Mans.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, dans votre formation, de bouger comme ça pendant toutes ces années ?
Alors, ça nous apporte déjà différents savoir-faire. Parce qu'en changeant d'entreprise, forcément, on change de totalement de structure. On passe du petit artisan qui a un salarié ou deux salariés à des grosses structures d'une centaine d'ouvriers. Ça nous permet de nous adapter facilement à toutes les entreprises. Et au-delà de ça, ça nous permet d'avoir plus de compétences dans des secteurs plus variés.
Ça vous permet aussi de tisser un réseau quelque part, et ça, je crois, c'est typique des Compagnons du Devoir.
C'est ça. Alors, faut savoir que de tout temps, les Compagnons ont été recherchés pour leurs compétences. Depuis les bâtisseurs de cathédrales, hein, les Compagnons voyageaient à travers la France parce qu'ils étaient les seuls à avoir les compétences requises pour bâtir de tels édifices. Donc oui, aujourd'hui c'est encore le cas. Hein. Les entreprises demandent des compagnons parce que c'est pas pour dénigrer d'autres
formations.
On recherche encore l'excellence, voilà, et on recherche à faire du beau avec nos mains et avec notre cœur.
Vous, Thibault, maintenant, vous êtes prévôt au Mans. Qu'est-ce que c'est exactement comme métier, vos fonctions ? Quand on dit prévôt, moi, ça me fait penser un petit peu au Moyen-Âge. Moi, je vois le prévôt médiéval. En quoi ça consiste exactement au quotidien pour vous ?
Alors, le prévôt, je dirais que c'est avant tout un responsable. Il est responsable des jeunes qu'il aura en hébergement et en formation. Il est responsable de la gestion du patrimoine, donc des sites qu'il occupe. Hein. Donc, en l'occurrence, moi, je suis au 114 Grande Rue au Mans, et on a aussi une maison de compagnons à Laval, en Mayenne. Et aussi, on a un atelier que les jeunes ont à disposition pour s'entraîner, pour se perfectionner dans leur métier. Je fais en sorte que les jeunes soient bien accueillis dans la maison des compagnons dès qu'ils arrivent en septembre. Je m'occupe de leur placement en entreprise, je fais leur suivi en entreprise aussi, donc je suis beaucoup en relation avec les employeurs. Je fais en moyenne 2 visites par an dans l'entreprise de chaque jeune pour faire leur suivi. On évalue leur savoir-faire et leur savoir-être, donc sans savoir-être chez les compagnons, on ne peut pas rester, hein. C'est ce qu'on dit. On a certaines valeurs à véhiculer, on a quand même une image de marque, et donc si certains jeunes ne font pas bien leur travail en entreprise, en général, ça se passe mal. Voilà. Mais on fait en sorte que ça se passe toujours bien.
Et donc vous, Thibault, vous avez combien de jeunes, on va dire, sous votre coupe, que ce soit ici au Mans ou à Laval ?
J'ai 70 jeunes actuellement au Mans et j'ai une trentaine de jeunes à Laval. Voilà.
Dans des filières qui sont lesquelles, par exemple ?
Alors, ce sera dans toutes les filières, à savoir qu'on a 4 filières chez les compagnons : bâtiment et aménagement, technologie de l'industrie, les métiers du goût et les matériaux souples. Donc, au Mans, nous avons beaucoup de charpentiers. On a une très forte demande en maçonnerie et en couverture. Voilà. Donc, si des jeunes sont intéressés par ces métiers-là, qu'ils n'hésitent pas, il y aura du travail pour eux. Après, on a des chaudronniers, des serruriers, des maroquiniers, des celliers, des boulangers-pâtissiers, paysagistes, charcutiers, on a tous les métiers.
Alors, le fonctionnement des études chez les Compagnons du Devoir, c'est assez particulier. Un jeune comme ça qui est attiré par un métier manuel, un métier qui a un savoir-faire, je dirais, comment est-ce qu'il peut faire pour intégrer les Compagnons du Devoir ?
un jeune qui est intéressé pour intégrer les Compagnons du Devoir. Alors ça dépend de son parcours. S'il sort par exemple du collège et qu'il veut intégrer les Compagnons du Devoir, on ne lui demande pas forcément d'avoir le brevet. Moi, tout ce que je lui demanderais, c'est d'être motivé, qu'il sache pourquoi il est là, voilà. Qu'il a envie d'apprendre un métier. Et après, on a de plus en plus de personnes qui décident de changer de parcours parce que voilà, ils ont été amenés par l'éducation nationale à faire un bac général et qui se rendent compte que ils savent pas ce qu'ils vont faire au bout, ils savent pas ce qu'ils vont avoir.
On l'a compris, le goût du travail, l'amour du travail bien fait et la volonté aussi de se dépasser quelque part, c'est vraiment des valeurs qui sont le quotidien chez vous, aux Compagnons du Devoir.
Alors je dirais que la valeur la plus importante, c'est la fraternité. Chez les Compagnons, on est une grande famille. On est amené à connaître beaucoup de monde, à côtoyer beaucoup de personnes issues de tout milieu, vraiment.
Et vous appelez frères et sœurs, je crois, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, voilà. Oui, tout à fait. On est des frères et sœurs, donc on cherche à tirer chacun vers le haut et au maximum de ses capacités, voilà, sur le Tour de France, oui.
Alors, vous me disiez tout à l'heure que les Compagnons de Devoir, c'est un petit peu les héritiers des bâtisseurs de cathédrales. Comment est-ce que vous essayez de faire vivre cet héritage historique, quelque part ?
Bonne question. Je dirais que ce qui prédomine chez les Compagnons du Devoir, je dirais que c'est le bon sens. Il y a des valeurs qu'on retrouve dans toutes les religions, qui sont le partage, la fraternité, la générosité, le don de soi. Mais ce sont des valeurs, pour moi, qui sont universelles.
Vous parliez tout à l'heure du savoir-être, du savoir-vivre des jeunes que vous encadrez. C'est quoi vraiment les exigences d'un bon compagnon ?
Je dirais déjà, c'est d'être capable dans son métier, d'être digne, et puis libre et généreux. Comment ça se vit au quotidien ? On a envie de se dépasser et de montrer qu'on est compagnon du devoir, qu'on a on doit être exemplaire en tout lieu et en tout temps, que ce soit en entreprise ou à la maison des compagnons. On a à cœur d'être digne d'être compagnon. C'est être compagnon, ça se mérite, ça ne se gagne pas. Chez nous, il y a l'apprenti qui rentre chez les compagnons, ensuite qui décide de faire son Tour de France, qui devient aspirant, c'est-à-dire qui aspire à devenir compagnon, et ensuite au terme de son Tour de France, il va faire son travail de réception, son chef-d'œuvre, pour être reçu compagnon. Et c'est à l'issue de la correction de son travail qui sera reçu compagnon.
Vous, maintenant que vous êtes ici prévôt des Compagnons du Devoir au Mans et pour Laval, quels sont les projets que vous avez dans les mois et années à venir ?
Alors pour le Mans, on a un projet de déménagement qui est en cours. Rien n'est officiel pour l'instant, donc je ne peux pas trop m'étaler sur le sujet. Et pour Laval, on aurait un projet d'extension parce qu'on a de plus en plus de monde et qu'on a à cœur d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. On forme 10 000 jeunes à l'année quand même, donc ce n'est pas rien. Et maintenant, on cherche à se stabiliser, d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions, faire de la qualité.
Merci beaucoup Thibaut Capelli d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau prévôt des Compagnons du Devoir au Mans et à Laval. Vous êtes en Sarthe pour une durée de 3 ans. À bientôt.
À bientôt.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur. Comme donner l'envie d'être moi, donner un sens.
fidélité sur la région de Laval, 88.8.
Les enquêtes de Sherlock Holmes, d'après Arthur Conan Doyle. Adaptation et réalisation, John Mack. Narration, Cyril de Guilaine. Musique, K-Music. Un programme Maurice Clément Fèvre. La figure jaune. Quatrième épisode. Ce sont des hypothèses sans plus.
Oui, des hypothèses qui au moins collent avec les faits. Quand de nouveaux faits seront apportés à notre connaissance et que ma théorie en collera plus, alors il sera assez tôt pour la reconsidérer. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire d'autre que d'attendre un message de notre ami de Norbury.
Nous n'eûmes pas longtemps à attendre. Il arriva juste quand nous finissions notre thé.
La villa est toujours habitée. Et vu la figure à la fenêtre, je serai au train de 7 heures, ne prendrai aucune décision avant votre arrivée.
Tel était le message de Monsieur Grant Munro. Il nous guettait sur le quai à notre descente de wagon. Les lampes de la gare nous permirent de constater qu'elle était très pâle et qu'elle frémissait d'une agitation difficilement contenue.
« Ils sont encore là, Monsieur Holmes, » murmura-t-il en posant une main sur la manche de mon ami. « J'ai vu des lumières dans la villa quand je suis descendu. Nous allons régler tout maintenant, une fois pour toutes. »«
Quel est votre plan ?»
demanda Holmes, tandis que nous nous engagions dans la sombre route bordée d'arbres.
« Je vais pénétrer dans la maison par n'importe quel moyen, de force sans doute. Je verrai moi-même qui habite là. Je voudrais que tous les deux vous me serviez de témoin. »«
Vous y êtes absolument déterminé, en dépit de l'avertissement de votre femme ? Rappelez-vous, elle vous a dit qu'il valait mieux que vous ne sondiez pas ce mystère. »«
Oui. » « Je suis absolument déterminé. »«
Ma foi, je pense que vous avez raison. N'importe quelle certitude est préférable aux doutes torturants. Nous ferions mieux de monter tout de suite. Certes, légalement, nous nous mettons dans un mauvais cas, mais la cause en vaut la peine. »
La nuit était très sombre, et une petite pluie commença à tomber quand nous quittâmes la grande route pour tourner dans un petit chemin creux aux ornières profondes. Monsieur Grant Munro marchait très vite. En trébuchant, nous le suivions du mieux que nous le pouvions.
« Voilà les lumières de ma maison, » murmura-t-il en désignant une lueur parmi les arbres. « Et voici la villa que je vais forcer. »
Après un coude du petit chemin, la villa se dressa tout près de nous. Une raie jaune, qui tombait sur le premier plan obscur, montrait que la porte n'était pas complètement fermée. À l'étage supérieur, une fenêtre était largement éclairée. Pendant que nous regardions, une tache noire se déplaça derrière le store.
« C'est la mégère !» s'écria Grant Munro. « Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un ici. Suivez-moi, nous aurons bientôt le fin mot de tout. »
Nous nous approchâmes de la porte, mais tout à coup une femme sortit de l'ombre et se plaça dans le rayon doré de la lampe. Comme elle était à contre-jour, je ne pouvais pas voir son visage, mais elle tendait ses bras dans une attitude de supplication.
« Pour l'amour de Dieu, Jacques, non !» cria-t-elle. « J'avais le pressentiment que tu viendrais ce soir. » « N'entre pas, mon chéri, fais-moi confiance. Je te jure que tu n'auras jamais à le regretter. »«
Trop longtemps je t'ai fait confiance, Effie. Laisse-moi passer. Il faut que je passe. Mes amis et moi, nous allons éclaircir cette affaire et la régler une fois pour toutes. »
Il la poussa de côté, nous le suivîmes. Il ouvrit la porte. Une femme d'un certain âge accourue voulut lui barrer le passage, mais il la bouscula et nous grimpâmes l'escalier. Grant Munro se précipita dans la pièce éclairée du haut. Nous entrâmes sur ses talons. C'était une chambre confortable, bien meublée, avec deux bougies qui brûlaient sur la table et deux autres sur la cheminée. Dans un coin, penché au-dessus d'un pupitre, il y avait ce qui ressemblait à une petite fille. Elle nous tournait le dos quand nous entrâmes, mais nous constatâmes qu'elle portait une robe rouge et de longs gants blancs. Quand brusquement elle nous fit face, je ne pus réprimer un cri de surprise et d'horreur. Sa figure
était d'une affreuse teinte livide, avec des traits parfaitement dépourvus de toute expression. Une seconde plus tard, le mystère fut expliqué. Holmes, en riant, passa une main derrière l'oreille de l'enfant, un masque tomba de sa figure, et nous nous trouvâmes en face d'une petite noire comme du charbon qui riait de toutes ses dents blanches devant notre stupéfaction. En sympathie avec sa joie, je me mis à rire aussi, mais Grant Munro, une main sur la gorge, cria
« Mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ?»«
Je vais t'expliquer. »
Madame Grant Munro entra dans la chambre. Elle avait un fier visage, tragiquement beau.
Tu m'as obligé, alors que je ne le voulais pas, à tout dire. Maintenant, il faudra que toi et moi nous nous accommodions de la vérité. Mon mari est mort à Atlanta. Mon enfant a survécu.
Ton enfant ? Elle tira de son corsage un médaillon en argent.
Tu n'as jamais vu ce médaillon ouvert ?
Je croyais qu'il ne s'ouvrait pas. Elle toucha un ressort. La face du dessus se leva. Alors apparut le portrait d'un homme, d'une beauté et d'une intelligence frappante, mais qui portait sur ses traits les signes formels d'une ascendance africaine.
« C'est John Hebron, d'Atlanta, » fit la femme de Grant Munro. « Il n'y a jamais eu plus noble cœur sur la terre. J'avais rompu avec ma race pour l'épouser. Tant que nous avons vécu ensemble, je ne l'ai pas une fois regretté. Notre malheur a été que notre unique enfant ait tiré davantage de lui que de moi. Cela arrive souvent dans de telles unions. Et ma petite Lucie est beaucoup plus noire que son père. Mais noire ou blanche, n'importe. Elle est ma petite fille chérie. Elle sera l'enfant gâté de sa mère. »
La fillette, à ces mots, s'élança pour aller se pelotonner dans les jupes de Madame Grant Munro, qui reprit.
« Je ne l'ai laissée en Amérique que parce que sa santé était fragile, et parce que tout changement lui aurait fait du mal. Je l'ai confiée aux soins d'une fidèle écossaise, qui avait été notre servante. Pas un instant je n'ai songé à la renier. Mais quand j'ai appris à t'aimer, j'ai eu peur de te parler de cet enfant. Que Dieu me pardonne. Je craignais de te perdre. Je n'avais pas le courage de tout te dire. Devant choisir entre vous deux, dans ma faiblesse de femme, je me suis détournée de ma petite fille. Pendant 3 ans, je t'ai caché son existence. Mais la nourrice me donnait de ses nouvelles, et je savais ainsi qu'elle était complètement rétablie. Finalement, il me vint un désir insurmontable de revoir l'enfant. Je luttais, me débattis, en vain. J'avais beau supputer tous les dangers, je résolus de l'avoir près de moi, ne fût-ce que pour quelques semaines. J'envoyai 100 livres à la nourrice, et je lui fis parvenir toutes les indications quant à cette villa, de la sorte qu'elle pouvait être notre voisine, sans qu'il y eût apparemment le moindre lien entre nous. Je poussai mes précautions jusqu'à lui commander de garder l'enfant à la maison pendant le jour, et de la munir d'un masque et de gants, pour que les flâneurs susceptibles de la voir à la fenêtre ne bavardent point au sujet d'une enfant noire dans le pays. Peut-être aurais-je été mieux inspiré de prendre moins de précautions, mais j'étais folle de peur que tu n'apprisses la vérité. C'est toi qui m'as dit le premier que la villa était occupée. J'aurais sans doute dû attendre le matin, mais je ne pouvais pas dormir tant cette nouvelle m'avait énervé. Aussi me glissais-je dehors, persuadé que tu dormais. Seulement, tu m'avais vu sortir, et ce fut là le début de mes chagrins. Le lendemain, mon secret était à ta discrétion. Mais noblement, tu te contins pour ne pas poursuivre ton avantage. 3 jours plus tard, toutefois, la nourrice et l'enfant eurent juste le temps de fuir par la porte de derrière tandis que tu entrais par la porte de devant. Et maintenant ce soir, tu sais tout. Et je te demande, Jack, que va-t-il advenir de mon enfant et de moi ?
Elle se tordit les mains en attendant une réponse. Il ne s'écoula pas moins de 2 minutes avant que Grant Munro ne rompît le silence. Mais quand il formula sa réponse, elle était du genre de celle dont j'aime à me souvenir. Il prit la petite fille, la leva à bout de bras, l'embrassa, et puis, tout en continuant à la porter, il tendit à sa femme son autre main et se dirigea vers la porte. Nous pourrons en discuter chez nous, beaucoup plus confortablement, dit-il. Je ne suis pas un homme parfait, Effie, mais je crois que je suis meilleur que tu ne l'avais cru. Holmes et moi, nous les suivîmes dans le petit chemin creux. Mon ami me tira par la manche. Je pense que nous serons plus utiles à Londres qu'à Norbury. Il ne me souffla plus un mot de l'affaire avant que, tard dans la nuit, au moment où il allait pénétrer dans sa chambre, il ne se retourna pour me dire « Watson, si jamais vous avez l'impression que je me fie un peu trop à mes facultés ou que j'accorde à une affaire moins d'intérêt qu'elle ne le mérite, alors ayez la bonté de me chuchoter à l'oreille Norbury. Je vous en serai toujours infiniment reconnaissant. »
Sur la région de Mayenne, 107.5.
Laudetur Jesus Christus.
Faites confiance et marchez sans crainte, c'est le message du pape François lors de la prière de l'Angélus ce dimanche. Il invite à vaincre la tentation d'une vie passive et endormie. Nous y revenons juste après les titres. François qui a salué l'accord entre Moscou, Kiev et Ankara pour permettre à des navires de céréales de quitter l'Ukraine. Cependant, les trajectoires de ces navires restent assez floues. Le premier à avoir quitté Odessa devait arriver au Liban, mais il a changé de destination en cours de route. Nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. Fin de l'opération militaire israélienne Aube naissante à Gaza hier soir après 3 jours d'attaque. 44 Palestiniens ont été tués, dont des enfants. Des manifestations hier dans plusieurs villes du Bangladesh après une hausse du prix de l'essence de plus de 50% décidée par le gouvernement. L'économie du pays est très impactée par l'augmentation, nous l'entendrons, du prix des hydrocarbures. Et puis enfin, dans notre dossier, en fin de journal, nous irons au Kenya. Le pays élira demain son futur président et nous le verrons pour la première fois. Ce sont les enjeux économiques et sociaux qui ont dominé la campagne au lieu de ceux ethniques. Nous en parlons avec le spécialiste de la politique kenyane, Christian Thibon.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Le pape François était donc place Saint-Pierre hier pour la prière de l'Angélus, reprenant les deux invitations de l'évangile du jour. Ne crains pas, petit troupeau, et sois prêt. Le Saint-Père a invité tous les chrétiens à la confiance, tels des veilleurs dans la nuit. Claire Riobé.
Non temere, piccolo gregge. Siate pronti.
Parfois, nous nous sentons emprisonnés dans un sentiment de méfiance et d'angoisse. C'est la peur de ne pas réussir, de ne pas être reconnu ou aimé, de ne pas pouvoir réaliser nos projets et de ne jamais être heureux, a constaté François face à la foule des fidèles venus l'écouter. Devant ces angoisses toutes humaines, Jésus nous exhorte à une attitude de confiance envers son Père. Ne jamais craindre de rien, c'est la certitude sur laquelle vous devez attacher votre cœur, a lancé le Saint-Père. Mais cette prise de conscience que le Seigneur veille avec amour sur chacun de nous ne doit pas pour autant nous rendre passifs. Le Christ nous demande d'être éveillés et vigilant.
Il messaggio è questo: bisogna stare svegli, non addormentarsi, cioè non essere distratti, non cedere alla pigrizia interiore.
Nous devons en fait être toujours prêts, a insisté François. Ne pas nous laisser distraire, ne pas céder à la paresse intérieure, car même dans les situations où nous ne l'attendons pas, le Seigneur vient. Le successeur de Pierre a conclu en invitant chacun de nous à marcher avec la certitude que le Seigneur nous accompagne toujours. Sous le regard de la Vierge Marie, elle qui a accueilli la visite du Seigneur et lui a répondu avec empressement et générosité : « Me voici. »
Ci aiuti la Vergine Maria che ha accolto la visita del Signore.